Tata boom. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le 51e épisode de Tatapoum. Tatapoum, une émission où on écoute, où on débat autour de l'actualité plus ou moins fraîche, de la musique bruyante, du punk, du garage, du rock, du metal, de la noise, du post-punk sous influence néo-fuzz, de la pop, du hardcore lofi, tout ça, on écoutera aujourd'hui et on en débattra lors du Conseil des ministres. Oui, puisque en l'absence d'un gouvernement sérieux, nous avons décidé de prendre les choses en main. Donc ce soir, on retrouvera la ministre des guitares électriques, de la justice et de la bière, Héloïse, le ministre du travail, de la mauvaise foi et du riolet, Guillaume, le ministre des affaires étrangères, des frites, des mitraillettes et de l'Alka-Seltzer, Cédric, la ministre de l'écologie, le ministre de l'écologie et du tabac froid, Arnaud, le ministre de la culture et de l'agriculture, Mathieu, la ministre des salons de coiffure et des kiosques à pizza à Marion et le ministre des blousons en cuir et de la santé. Bibi, ne rigolez pas, ça pourrait faire un gouvernement de progrès social comme on n'en a pas connu depuis très longtemps. Ouvrons donc le Conseil des ministres puisque ce soir nous irons de Dublin à Amsterdam en passant par Bâton Rouge en Louisiane et pour finir à Lorient en Bretagne. Puisque ce soir on débattra des derniers albums de Fontaine d'ici, de The Anomalies, de Tout et de Cuir. On commence donc par Fontaine d'ici qui vient de sortir un album et c'est Cédric qui nous a sélectionné Starburster.
Three, swallow the key.
Et ben voilà, ça c'était donc un premier extrait de l'album Romance de Fontaine d'ici, et c'est Cédric qui nous en parle.
Oui, donc voilà le très attendu quatrième album du quintet de Dublin. Très attendu, tant le groupe est devenu le fer de lance du post-punk mélancolique depuis un premier album plus nerveux, d'Ogrel, qui dépeignait une Irlande populaire à distance des ennemis anglais. Et jusqu'au troisième album, Skinty Fia, extraordinaire hymne cathédralesque entêtant de noirceur qui avait mis tout le monde d'accord, excepté quelques esprits rabougris de Tatapoum. Et une fois encore, Héloïse avait sauvé la mise de cette émission désespérante. Je cite d'ailleurs Pierre à cette occasion, qui s'était fait visionnaire, puisqu'il il avait dit « On est en train de dire adieu à Fontaine d'ici, à Tatapoum ». Bon, c'est lui qui a choisi de le remettre quand même au truc. Le succès était donc au rendez-vous, les salles complètes, des mois à l'avance, des concerts intenses, et malgré tout, encore un positionnement qui est à souligner avec ce projet Case Fire avec Massive Attack, au profit de l'action de MSF en Palestine. Comme on a déjà présenté Fontaine d'ici lors de cette émission en juin 2022, je vais pas donc refaire tout ça, Mathieu nous avait narré. Alors pas vraiment son histoire, mais il nous avait craché son venin sur cet album.
Il m'en reste.
Alors on va pas se mentir, avec cet album il y a du changement. Alors c'est pas radical, hein, c'est un changement plus social-démocrate que révolutionnaire. Alors premier changement, c'est celui du label, hein, il passe de Partisan Records à XL Recordings, qui est le label notamment de Radiohead. Le deuxième changement, c'est le producteur, avec l'arrivée de James Ford, qui a notamment produit Arctic Monkeys ou Blur. Et tout ça se ressent puisqu'on navigue ici plutôt du côté pop, un peu plus commercial ou arty si on veut. Les textes sont aussi plus intimistes et plus solaires, hein. On a passé les crises d'angoisse du chanteur, et on retrouve des airs de Depeche Mode comme sur Romance, ou si on évoquait plutôt Oasis sur le précédent album, on est plutôt ici du côté de Blur, et l'album solo du chanteur Grian Chatton l'année dernière empruntait déjà un peu la voix prise par Damon Albarn sur ses albums solo. Donc voilà, c'est du changement, mais c'est toujours une pop particulière, des arrangements qui déroutent, une voix singulière et envoûtante. Alors peut-être qu'il faut laisser un peu décanter cet album pour y trouver un peu plus, peut-être y voir une parenthèse ou un passage définitif vers une pop élégante. Mais j'ai bien peur qu'il vous ravisse moins ici dans cette émission que chez les Arocs ou chez Pitchfork.
Alors on se tourne vers Mathieu, Fontaine d'ici, t'as enchanté ?
Alors, mais Fontaine d'ici, dès le premier abord, c'est-à-dire la pochette, ça fait peur, parce que la pochette, ça fait une pochette d'album de groupe de prog, hein, c'est un cœur rose qui pleure sur un ciel bleu, c'est immonde comme pochette. Et une fois qu'on se met à écouter l'album, qu'est-ce qui se passe ? On retrouve tout ce que j'avais détesté sur Skinty Fire, l'album précédent qu'on avait chroniqué dans l'émission 26 en 2022, une voix qui est insupportable, qui frise souvent et qui rappelle souvent l'immonde Morrissey. Et puis cette volonté qui semble maintenant assumée d'être tout à fait radio-compatible, donc d'un intérêt très très limité. Sur ce nouvel album, on retrouve régulièrement des parties qui rappellent la pochette, du prog qui m'évoque de temps en temps Pink Floyd ou plein de trucs que j'aime pas. Ou alors, de temps en temps, je pense au morceau Here's the Thing, un petit mélange entre Oasis et Primal Scream, autant dire de la pop anglaise sans intérêt. En plus de ça, cet album, les morceaux ils sont régulièrement pompeux, pour ne pas dire pompant. Et je me pose une question, c'est comment est-ce qu'on ose encore parler de post-punk avec cet album ? Il n'y a absolument rien de post-punk là-dedans. Et moi, j'ai juste une remarque, c'est que si seulement le groupe a explité après Dogrel, le premier album de 2019 qui était excellent, on aurait évité de devoir chroniquer une telle bouse.
Ok, Arnaud Fontaine d'ici.
Contrairement à la dernière fois, moi j'étais un peu comme Mathieu avec Skinty Fia, où j'avais, je pense, le seul argument que j'avais donné c'était à chier. Je vais essayer quand même de détailler un peu plus sur cet album. Petite histoire, moi, un matin d'août, je sais plus si c'était milieu, fin août, j'écoute France Inter et le morceau qu'on vient d'entendre, la Starburster Pass. Et franchement, je me dis, c'est super bien, le rythme est rappé, le chant rappé, la mélodie. Vraiment, c'est un morceau qui prend la gorge, j'ai trouvé ça vraiment top, et du coup, je l'ai chasamé. Et putain, fait chier, c'était Fontaine D.C. et je savais pas que c'était eux qui avaient fait ça. Et donc j'étais bien emmerdé parce que je m'attendais aussi à le défoncer aujourd'hui. Bon, du coup après je l'ai écouté en entier. Je suis assez partagé. Quel argument ? Je trouve que c'est un peu de la soupe. Une fois passé comme l'intro, super intro, le morceau qu'on vient d'entendre là, il y a Hear the Thing qui est un mélange de shoegaze sans intérêt. Après, il y a une brochette de ballade mollassonne, pour ça que je le dis soupe. C'est moufle, là, sirupeux. Et je suis d'accord avec Mathieu, on comprend quand même un peu mieux la pochette rose bonbon dégueulasse. Donc vraiment pénible. Il y a le titre Bug. Tu dis Oasis disparu, il singe quand même dans la voix encore un peu Oasis, mais c'est plutôt bien fait. C'est quand même un morceau limite qu'on pourrait fredonner sous la douche. C'est pas fait avec les pieds et après encore trois morceaux vraiment chiants que je trouve assez fatigants. On a même droit du violon sur Hoarseness in the Wetness. Et après il y a Death Kink et là les guitares arrivent parce qu'il y a quand même très peu de guitares sur l'album. Et en effet on oublie presque l'étiquette post-punk qu'on leur avait collée. Mais le morceau est plutôt bien, c'est plutôt du très bon Pixies, ils font tellement de la merde en ce moment que j'étais plutôt content d'entendre ce titre, on va l'entendre juste après. Et le dernier aussi, totalement à contre-pied du reste de l'album, une ballade plutôt super bien écrite, une belle mélodie. Donc bilan des courses, je dirais que c'est de la soupe, mais avec quelques très beaux croutons, Starburster notamment, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, mais je dirais un peu comme... Cédric, je crois que c'est un album qui risque de se bonifier avec le temps, et j'ai fait quand même l'effort de l'écouter plusieurs fois en découvrant des facettes de certains morceaux que j'avais détestés au départ, plutôt intéressantes. Alors le virage sur XL risque de les balancer dans des stades, et je pense que c'est peut-être la fin du Fontaine D.C., même si pour Mathieu c'est déjà la fin dès le départ, dès le premier album, mais... Ça risque d'être compliqué pour eux pour la suite parce qu'ils ont vraiment signé avec un label qui va les propulser dans les stades. Le son commence à se rapprocher d'un son de stade. On verra, mais voilà, j'ai été plutôt surpris et je dois dire que j'ai plutôt aimé l'album.
Ouais, c'est vrai. Pourquoi revenir sur Fontaine D.C. Moi, ça a pas manqué de couverture médiatique, pleine page dans Libé, pareil dans le Monde, ce qui est assez rare pour un groupe de rock au sens large. Je vous raconte pas la place qu'ils ont dans les Un Rock, Télérama, mais à peu près dans toute la presse. Et puis alors une campagne, un battage médiatique puisque ça sort en partenariat avec France Inter, etc. Et une programmation, ils font la tournée des grandes salles européennes. J'envisageais pas une telle couverture médiatique ni une telle pluie de louanges lorsqu'on a mis ça au programme. Mais bon, que dire d'autre que on peut faire plein de réserves, mais Fontaine D.C. c'est peut-être un des meilleurs groupes de sa génération. D'abord, c'est vrai, ils sortent plus des albums dans des boîtes comme Total Punk. Ils sont pas habillés avec des vieux tissus de siège auto tellement c'est des crevards. Bah non, ils sentent bon. Ils portent des habits ridicules mais très chers. Et ils ont un son incroyable, des textes, une voix impeccable, et surtout tout est maîtrisé de bout en bout. Alors on peut évidemment, et je suis le premier à le faire, regretter le manque de guitare électrique et trouver trop rares les moments où ils s'énervent, où ils font un peu monter la pression, parce que je pense que c'est là où ils sont les meilleurs, quoi, quand ils essayent de tendre la situation. Voilà, il y a vraiment quelque chose dans cet album. Pour moi, toute la réussite de cet album pourrait tenir tout entière dans un seul titre. C'est le titre qu'on vient d'écouter, Starburster. Alors, j'ai compris que moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'est une incroyable évocation de la dépression, de l'angoisse. On sent que ça monte, cette tension qui accompagne quand on a l'impression de couler, et puis quand on touche le fond, on pousse un peu avec les pieds, on remonte à la surface et on respire un peu. Mais la dépression est encore là, elle nous submerge à nouveau. L'intégration de cette espèce de respiration quand ils font, je trouve que c'est une idée musicalement assez géniale, et je rien que pour cette chanson et sa puissance pour évoquer, pour dire la dépression, la panique, etc. Je sauve tout cet album. Et puis quelque part, ils sont un peu restés punk parce que accepter de faire une pochette aussi laide. Enfin, il y a que les punks qui peuvent se mettre d'accord pour faire un truc aussi moche. Guillaume.
Ouais, bah pour moi, Fontaine D.C., c'est un peu la figure de proue du renouveau post-punk tournant des années 20. Hein, c'est un peu les têtes d'affiche avec un certain nombre d'autres groupes, mais eux ont compté, et notamment le fameux Dogal de 2019. Et donc, découvrir Romance, c'est surtout un profond changement de style à mes oreilles. Et de ce point de vue, Arnaud peut être un homme doublement comblé, hein, non content d'avoir déjà pris sa place pour le prochain concert de reformation d'Oasis. Je pronostique qu'il y aura droit en première partie à Fontaine D.C. Très prochainement. La dérive des Dublinois est saisissante et ne peut laisser d'interroger. Aurait-il compris que pour faire carrière dans le milieu, il convenait de se montrer plus astucieux que les autres et qu'ainsi, si certains s'abaissent à faire des albums de reprise pour combler leur creux d'inspiration et ou leur manque pour faire évoluer leur style musical, il est bien plus judicieux de faire du neuf avec du vieux. Car quel ne fut pas mon étonnement en croyant reconnaître la voix de Thom Yorke qu'accompagnerait les restes de Depeche Mode sur le premier morceau Romance. Ma surprise d'entendre le son baggy typique des Primal Scream sur Starbuster. Je n'étais pas sûr du nom du groupe, mais sur Here's the Thing, j'étais certain par contre de rebaigner dans le son typique pop US des années 90. Sur In the Modern World, je n'ai pu m'empêcher de songer à James. Motorcycle Boy, bon sang, mais c'est House of Love. Ce chanté éthéré de Sundower, ce ne peut être que Chapter House. Et que manque-t-il encore pour compléter le package de cette super compilation de la scène indie des années 90? Blur, bien sûr, auquel on songe sur un morceau comme Death Kink, par exemple. Cet album, en fait, se révèle une succession de morceaux ressucés. Et cependant, si les Fontaines ne manquent pas d'opportunisme, ils possèdent pareillement la maestria et le savoir-faire. La voix de Chatton, toujours avec le ton juste, qu'il importe pour réussir l'entourloupe. Car ce roman, c'est une totale réussite. Il est non seulement super bien emmené, mais s'il abreuve largement à la source des anciens, il est indéniablement dans l'air du temps par ses sonorités. Et je dois le reconnaître, ayant grandi avec toutes ses références, c'est fort agréable et confortable. Annoncé comme une évolution majeure du groupe, Romance l'est incontestablement par cette musicalité pop. Fontaine D.C. s'aligne désormais dans le créneau des gros porteurs tête d'affiche pour festival. On le comprend et d'une certaine façon c'est mérité, mais demeure en moi quand même une déception quant à l'orientation qui est prise et que j'aurais forcément aimé différente.
Alors on vous propose d'écouter un deuxième extrait de Fontaine D.C. avec Death Kink.
Tasteless sleep, I was dead. When will you step in the room out of your head? You said that I was bad, that was fine. When you said I could be good, I wouldn't have it. There's a certain kind of air in the smoke. Must be for my mountain dew in the jaw. For it to make you laugh, ha ha ha. Teary faces, no disguise. We'll be right back.
slaughtered. I caved in. My promise was clattered. Amazing stars from the drink. I made a promise and I killed it. Shit, 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 battered. A whole life meretricious. You shattered. Amazing stars from the dream. I made a promise I will kill it. Shit, 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 battered. I cave in. My promise was clattered. Amazing stars from the drink. I made a promise.
Et ben voilà, ça c'était le deuxième extrait de Fontaine d'ici qui a fait débat entre nous. On va maintenant parler de The Anomalies. Et The Anomalies, Arnaud a sélectionné un premier extrait, ça s'appelle Despair. Et ben voilà, c'était The Anomalies et c'est Arnaud qui nous le présente.
Ouais, donc c'est un groupe franco-hollandais qui est signé sur le label Slovenia Recording qui héberge tout un tas de super groupes. The Monster qu'on a déjà chroniqué ici, il y a Gob Psychic aussi, un groupe danois qu'on est quelques-uns à avoir déjà vu sur scène et beaucoup apprécié. C'est un groupe qui est composé de bonnes membres de Sex Organ, de Rémi Lucas, qui est apparu chez Escobar et Weird Omen, aussi chroniqué il y a peu dans l'émission. Et Stéphane Loustalo, hyperactif et qui est membre de Magnetix. Donc voilà pour le pédigré. Peut-être vous pourrez dire deux mots de ces formations. Je connaissais pas les noms à part Weird Omen. Pour tout dire, Pierre nous avait proposé une vieillerie de 2022 qui a immédiatement fait réagir Marion, qui est adepte du jeunisme, comme chacun sait. Et c'est Bibi qui nous a fait cette proposition qui vient à peine de sortir. Donc c'est tout chaud et le titre c'est Down the Hall. Donc au fond du trou, et ça porte bien son nom. C'est quand je l'écoutais, c'était pile au moment où Premier ministre était nommé, donc ancien retraité du RPR qui avait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 81. Bref, un progressiste. Et donc rien de mieux que l'écoute de ce deuxième album, The Anomalies. Côté musique, c'est pas mal de plages instrumentales, beaucoup plus rentre-dedans que les autres formations dans lesquelles ils évoluent. Moins rockabilly, plus expérimental aussi, à l'image du quatrième morceau Flat Top, qui est absolument génial. Tout est bien dans ce disque, vraiment rien acheté, c'est une pépite, moi j'ai pris une grosse claque en l'écoutant. J'ai eu du mal à choisir deux titres. Go Away, sa mélodie à la Blues Brothers, c'est vraiment génial. J'imite un sample, toujours vraiment un plaisir d'écouter toute cette stratosphère de petits groupes à l'ancienne qui parcourt le monde. Et dans le message qu'on avait reçu du producteur, il citait un des festivals dans lesquels ils vont jouer là en Espagne, c'est un festival à Benidorm. Qui s'appelle le Fantastic Dracula Festival, qui a l'air totalement déjanté, qui propose une prog ultra pointue. Et de fil en aiguille, ça m'a fait penser à un autre festival auquel j'étais cette année. Un pote de Limoges m'avait fait découvrir, c'est le Cosmic Trip Festival. Exactement dans la même veine que ce festival espagnol, avec une affiche psyché, mais exactement la même typo. Et qui passe tout un tas de petits groupes qui tournent, de groupes français, européens, étrangers, et qui écument les petites salles. Et c'est toujours donc un plaisir de recevoir ce type d'album et de pouvoir en parler. Le seul bémol quand même, c'est le tarif de l'album sur leur Bandcamp. Ils vendent l'album en numérique au même prix du vinyle, à quasiment 20 balles. Donc c'est peut-être le seul bémol que j'aurais à dire à cet album, parce que c'est un super album rempli de pépites. À vous.
Ouais, moi je suis d'accord. Non, vraiment, ils nous servent les Anomalies, un punk sauvage et déglingué. Alors c'est publié, tu disais, chez Slovenia Records, mais moi ça m'a tout de suite fait penser à un autre label, c'est Woodourism, les Suisses, où on retrouve justement Monster, le révérend Beatman, Bad Mojo ou Urban Junior. Je trouvais que c'était un peu dans cette veine-là, quoi, vraiment très un peu déglingo, un peu. On sent qu'il y a une famille là, parce que rapidement on comprend comment les gars sont quand même bien allumés, ils produisent un son vraiment lourd, roboratif, reposant sur une basse et une batterie au son épais, et que vient accompagner une guitare à peine moins empesée. On est dans ce truc, quoi, des trois branleurs, quatre branleurs, qui produisent un punk dégoulinant, lourd, gras et onctueux. En cuisine, quand on présente des photos de plats, vous savez, les burgers, des plats comme ça, avec force fromage fondu, où tout est luisant, semble gras, mou, onctueux, on parle de food porn, et moi ça m'a fait penser à ça en écoutant leur album. Je me suis dit qu'on pourrait parler de punk porn sur cet aspect-là. Voilà, moi cet album, il m'a pas fallu longtemps pour l'adopter. Bon, c'est vrai que parfois leur bordel sonore, c'est plus du bordel que du sonore, mais il y a un plaisir presque coupable à les écouter. Cédric.
Alors, je prends ma feuille. Venant, voilà, moi j'ai adoré aussi cet album, je le trouve vraiment très très bon. Alors, on est dans un univers hyper référencé. Mais avec de l'excellente référence, puisque le chanteur Bone évoque deux groupes qui l'ont initié à la musique, donc les Gorillaz et les Mummies. Et on retrouve bien le côté garage, tendance rock'n'roll, fuzz, pied au plancher des premiers, et le côté garage, tendance punk, loufoque des deuxièmes. Je trouve que la sauce, elle prend bien ici, elle met un peu de côté des groupes qui sont plus délirants auxquels ils participent, comme Sex Organs par exemple, qui est un peu plus punk rigolo, quoi, disons. Ou psyché rigolo. Je trouve que le côté plus sérieux finalement ici est plus intéressant. C'est une sorte de cramps en plus punkoïde, quoi, disons. Et les instrumentaux passent aussi très bien. Ça passe très très bien à la rampe, ce qui est quand même pas toujours évident finalement sur les albums. Surtout le premier en ouverture de l'album est vraiment parfait. Il y a des moments que j'ai trouvé un peu plus faibles, comme vous le disiez. Il y a parfois trop de choses dans les titres. On comprend pas trop ce qu'ils veulent faire, comme par exemple sur On My Way, par exemple, et le titre suivant. Mais c'est vraiment pas grand chose par rapport à un album qui reste très très bon du début à la fin. Et ce matin, bon, j'avais un peu la tête dans le cul après deux jours de fête de l'humain, et c'était juste parfait comme ambiance sonore pour me réveiller.
Mathieu.
Oui, ben moi je vais pas aller à l'encontre de mes camarades, surtout que Guillaume va pas parler sur cet album, donc on risque d'être tous d'accord. Effectivement, un groupe franco-néerlandais avec plus de franco que de néerlandais, hein, puisque il y a Luch Vibrato, le chanteur-guitariste de Magnetix, enfin des ex-Magnetix, et le Rémi, le batteur des Weird Omen, qu'on avait écouté effectivement, qu'on avait chroniqué pour le Tatapum 41. Que j'avais adoré, et voilà, The Anomalies, c'est quand même dans la lignée de ces deux groupes. Donc il y a pas vraiment de surprise, mais au moins on se retrouve devant un bon garage punk sale. Bon, on va pas jusqu'à Voodoo Rhythm Records, mais on sent quand même qu'il s'agit pas de passer des plombes en studio ni derrière au niveau du mastering. Et après l'immonde Fontaines d'ici qu'on vient de se taper, là on est remis sur des bons rails. Et je dois avouer, alors vous avez encore la chance puisque Héloïse va encore parler de cet album, mais profitez-en parce que la suite de l'émission, ça risque pas forcément d'être du même acabit.
Héloïse, justement.
Bah, je ne ferai que surenchérir, j'ai évidemment adoré cet album, et notamment parce qu'il ne vient pas de là où on l'attend. Spontanément, lorsqu'on évoque Amsterdam, on pense davantage aux canaux, aux joints et à la politique dégueulasse de la coalition d'extrême droite au pouvoir qu'aux rock'n'roll. Or, avec leur sonorité 50s, 60s et 70s teintées de blues, voire de surf, biberonnées au rock garage, Yanomalis détonne dans cet univers politique moribond. Et c'est peut-être de là qu'ils puisent leur côté primitif, rageur et bordélique, eux-mêmes se décrivant comme experts en soirée de destruction totale. Au total, justement, je dirais que même si ce n'est pas la modestie qui les étouffe, The Anomalies se présentant comme le groupe de garage le plus exporté du 21e siècle, ouais, c'est une pépite du rock'n'roll qui se laisse écouter à fond et en boucle jusqu'au dégoût.
Eh ben, je vous propose d'écouter à fond Cockhead, un deuxième titre de The Anomalies. Et ben voilà, ça c'était The Anomalies, et on va écouter maintenant Zou, ça s'écrit T-H-O-U, tout, et c'est Guillaume qui nous a sélectionné un premier extrait, une Biden guest. Allez, courage. Yeah. Et ben voilà, vous venez d'entendre 3 minutes 43 de Zou, et c'est Guillaume qui va nous présenter.
Ouais, Zou, comme dit Pierre, originaire de Baton Rouge en Louisiane, formé en 2005, Zou, alors, y a plein de prononciations possibles, je pense, est un solide établi groupe de sludge metal, hein, comme vous avez pu l'entendre. Les membres n'ont cessé de varier depuis leur premier album en 2007, et Umbilical compterait comme leur 11e, sortant chez le label new-yorkais Sacred Bones Records. Leur précédent, le déjà très bon Magus, que je vous recommande aussi, remonte à 2018, et c'est dire que celui-ci était attendu. Le grand intérêt de Zou est de ne pas se contenter d'entretenir un genre musical, mais d'en tester les limites et de s'aventurer à en aborder d'autres. Quoi d'étonnant, par exemple, de savoir qu'ils ont par le passé collaboré avec le groupe radical de l'Oregon, The Body, dont on a déjà causé ici à Tatapoum, et cela explique la consistance de leur composition, qui n'est pas seulement du sludge bête et brutal, comme on peut le dire du punk qu'affectionne Héloïse, mais leur compo recouvre de nombreuses influences, à commencer par la scène grunge des années 90, influence très marquante sur ce disque, ou le hardcore à la Melvins, en passant par le heavy façon Alice in Chains. Ce qui explique qu'au-delà des fondamentaux du sludge, hein, le chant cinglant, de gros riffs, les breaks abrupts, quelques solis, la consistance générale de ce Umbilical déborde de partout vers d'autres frontières stylistiques. La musique de Zou est à la fois d'une grande brutalité, d'une magnitude sonore exorbitante, emplie de dissonances et pour autant d'un grand confort par les qualités mises à la déployer.
Ah, non.
Cela tient à ce que Zou ne mise pas tant sur la violence, mais sur l'impact harmonique du son qu'ils sont capables d'atteindre. C'est une musique qui absorbe l'auditeur, le transporte et stimule son imaginaire. Personnellement, je me régale à leur écoute et j'en redemande.
Bon, Héloïse, même enthousiasme que Guillaume.
Même enthousiasme, je crois que je retiens confort de ta présentation. Je crois que c'est un terme idoin pour décrire cet album. Bon, ben, quant à moi, dès la première note de guitare, dès la première syllabe du premier beuglement, cet album a créé chez moi une réaction épidermique proche de la nausée. Alors, comme je n'aime pas dire du mal des groupes que l'on chronique, j'ai tout de même une réputation d'infirmière à tenir, je vais vous raconter une histoire. Alors, pour faire honneur à la Philharmonie et tenter d'y comprendre enfin quelque chose à ce sous-genre musical, je me suis retrouvée le temps d'une exposition au pays des métalleux. Et je ne sais pas ce qui fut le plus pénible entre cette iconographie à base d'aigle, de tête de mort, de reliques chrétiennes ou de buste à l'effigie de Lemmy. Cette musique, certes exécutée par des musiciens virtuoses, mais auxquels nous souhaiterions juste crier qu'il est inutile d'enchaîner tant de notes sur une même mesure, l'auditeur n'étant pas une noix que l'on doit gaver pour faire du rock gras, ou ce public arborant fièrement son uniforme de métalleux, fier de ce costume taillé pour lui par le capitalisme et vraisemblablement acheté au Hellfest, mais n'hésitant pas à défendre l'engagement de ce style qui, si l'on excepte le goût prononcé des groupes de black metal pour les Swastika et Blood and Honor, reste encore à démontrer. Bref, à l'exception des parties consacrées au hardcore et au mouvement metal à l'étranger, la visite de cette expo s'est révélée être une véritable épreuve, un petit peu comme l'écoute de Zou, mais je la recommande à tous les fans du genre. Quant à moi, je suis bien évidemment partie de là en courant, me laver les oreilles sous des tombereaux de hoï de punk hardcore.
Cédric.
Oui, bah en fait quand j'ai reçu les groupes à discuter pour cette émission, en fait j'ai commencé à les écouter dans mon salon, quoi, tranquille. Et puis je suis venu à Thou, là, et ma partenaire de jeu est rentrée du boulot. Elle n'a pas vu que j'écoutais de la musique. Et très sincèrement, elle m'a demandé, mais ça vient d'où ce bruit? Et en fait, bon, ça vient de l'esprit rotor de Guillaume, matiné du sadisme de Pierre. Mais je sais pas trop d'où ça vient, moi, ce bruit. En fait, ouais, bah, c'est comme pour avec Héloïse, je partage tout à fait ce que tu dis. Pour moi, ça représente tout ce que je n'aime pas, c'est-à-dire le métal. Moi, j'ai déjà appris l'existence du sous-genre, le sludge, je connaissais pas. On dit que c'est matiné de grunge, mais je vois pas trop bien où. J'aime pas trop ces voix lourdes, encore moins cette esthétique moyenâgeuse, quoi, en gros. Alors, certes, il y a des titres qui sont un peu plus hardcore que je préfère, comme sur I Feel Nothing When You Cry, un titre vraiment complètement con d'ailleurs. Alors apparemment il y a des textes qui sont un peu plus subtils et de gauche que dans bon nombre de groupes du même style. Hein. Enfin c'est en tout cas l'idée que je me fais de ce style-là, je sais pas trop. Même si je me dis que si le Hellfest attire autant d'étudiants d'école de commerce et d'ingénieurs, c'est sans doute que ces groupes n'ont quand même pas grand-chose à dire, au mieux. Bon, alors je comprends bien l'idée d'exprimer son mal-être, mais je trouve, moi, voilà, je préfère les manières plus énervées ou mélodiques pour le faire, comme nous montrer une partie du punk et la totalité de la new wave. Pour moi, tout se ressemble un peu. Moi, c'est comme s'il avait fait 50 minutes de musique et qu'il s'était dit, tiens, on va couper n'importe où. Et ça va faire des titres, en fait. Enfin, un peu ça. Bref, j'ai essayé un peu. Et la conclusion, c'est que c'est pas bon pour un sou, quoi.
Ouais, moi je me suis souvent imaginé comme un aventurier du punk rock explorant avec mes docks et mon blouson en cuir les terres les plus reculées des musiques bruyantes. Et finalement quand j'écoute Zoo, je me rappelle que je suis somme toute assez casanier quoi. Zoo c'est donc du metal hardcore sludge bien lourd. On y retrouve les éléments classiques du genre, un batteur qui est un bûcheron, le chanteur qui a un cancer de la gorge et des guitaristes qui sont défoncés aux amphétamines. Mais là où il pousse le vice, c'est qu'il ne se contente pas de faire des morceaux d'une minute ou deux max avec ce son-là, c'est que là, ils font des trucs longs, ça dure 4, 5, 6 minutes. Et rappelons que les métalleux, c'est comme les chiens. Une minute de leur vie compte comme 7 ans dans la nôtre. Ce qui fait que leurs morceaux, ça fait très très long. Du coup, bon bah voilà, je suis désolé Guillaume, moi je suis resté sur le quai alors que je te vois Guillaume partir gaiement, sac au dos, vers des nouvelles terres musicales. Et au loin, ta silhouette devient de plus en plus petite et j'ai quand même un peu peur que tu tombes dans le ravin sans fond des musiques bruyantes. Mais bon, bon courage. Arnaud.
Bah, je suis le dernier, donc je vais inévitablement le sauver un peu et Guillaume va être sûrement content. C'est dur parce que c'est le chant, c'est le sludge metal, peut-être le style, mais si on fait abstraction de ce chant démoniaque, je suis totalement d'accord avec Guillaume, je pense qu'on passe à côté de plages instrumentales qui sont plutôt intéressantes et en fait assez variées. Alors les quatre premiers morceaux, la rythmique est très lente, c'est vraiment dans le style sludge. Et ensuite ça s'ouvre vers des rythmiques qui sont plus varié, alors certes c'est métal, mais je suis d'accord avec Guillaume, moi j'ai quand même entendu la même chose que lui, encore une fois si on fait abstraction du chant guttural qui, c'est vrai, assez pénible, le titre Unbidden Guest fait vraiment penser à Soundgarden, référence qu'il cite souvent, The Promise aussi, t'as cité Melvins, mais moi j'ai aussi entendu du Helmet, alors il faut en effet essayer d'entendre derrière le beuglement qui est difficile, mais l'étiquette qui se colle, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est con de passer à côté l'écoute de l'album qui se révèle plutôt agréable. Alors vous allez gueuler, le terme, je le reprends un peu de Guillaume, l'écoute est finalement assez agréable.
Mm-hmm. C'est évident, c'est évident.
Je sais. Et alors, vous avez parlé d'étiquette de métal, Héloïse, tu le disais. Et sur Discogs, je me suis amusé en effet à aller savoir qui faisait ce truc, cette musique. Je connais pas beaucoup le genre. Et en fait, ils sont très 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 loin de l'image de métalleux parce que, alors ils sont pleins à être intervenus sur le groupe. Mais franchement, si à part, il y a deux filles qui sont plutôt assez dark. Tous les autres mecs sont franchement des mecs qui auraient pu jouer dans Dire Straits tellement ils sont propres sur eux. Donc c'est plutôt un groupe assez étonnant. Et bon point pour eux, l'album est à 7$ en 24 kHz. Vraiment pas cher. J'ai apprécié, Guillaume. Merci de l'avoir mis.
Eh bien, pour le bonheur de tous, hein, on va écouter un deuxième morceau de Zoo. I feel nothing when I cry. voilà, ça c'était donc un deuxième extrait d'un extrait de Zoo, et on va écouter maintenant Cuir qui sort un album aussi, et ce qui s'appelle Album, l'album, et Héloïse va sélectionner Ghast comme premier extrait. Et ben voilà, c'était un premier extrait de Cuir et c'est Héloïse qui nous en parle.
Alors Cuir est le premier et le projet solo de Doug, chanteur de deux groupes de Oi, Sordid Chip et Coupe-Gorge, originaire de Lorient, dont j'en profite pour saluer les Morues, la fabuleuse équipe de roller derby locale. Après démo en 2019, album en 2021 et EP en 2022, Cuir revient avec un second album en se foulant toujours autant pour les titres, puisque celui-ci s'intitule originellement Album. Il en résulte un petit brûlot punk Oi Synthwave à l'esthétique kitsch BDSM. Album, c'est d'abord une musique faite de nappes de synthétiseurs et de guitares, alliée à une rythmique punk et à un chant oi au timbre singulier. 10 manifestes incendiaires, enchaînés pied au plancher, dont les harmonies sont à la hauteur de l'uppercut que ce son-là vous colle dans la figure. D'autant qu'enregistré à The Movie Studio Recording de Brest, l'enrobage sonore et le mixage d'album se démarquent nettement des productions précédentes, au profit de la puissance et de l'efficacité de ces 23 minutes de oi colorées de Synthwave. Mais l'originalité de Cuir, c'est également, et peut-être surtout, son esthétique kitsch d'obédience BDSM, les quatre membres du groupe arborant systématiquement une cagoule, dont celle de Doug, en cuir de couleur rose. Outre un rappel au film culte italien Torso, de Sergio Martino, il en résulte un effet décalé qui rompt totalement avec l'aspect quelque peu rugueux et un peu mascu que peut dégager la oi. Il en résulte un petit bijou qui allie à merveille des sonorités qui, selon moi, vont parfaitement bien ensemble. Du synthé, des riffs saturés de guitare, du post-punk, de la synthwave et de la oi. En un mot, moi je trouve ça brillant.
Et Guillaume, toi aussi
tu... honnêtement, pour du punk français, ce n'est pas si mal. L'interprétation des morceaux tient la route et m'a permis de supporter l'intégralité de l'écoute, une première fois pour évaluer ce à quoi j'avais affaire, et la seconde pour me confirmer dans mon jugement. Alors bien sûr, ça récite le chapelet habituel du punk garage ronronnant et peu inspiré de la France Cronenbourg, mais comme c'est accompli avec conviction et en savant y faire, l'album comblera, j'en suis sûr, tous celles qui se satisfont d'un rock bas de gamme par la platitude de ce qu'il propose. Car on ne peut se tromper sur la provenance du groupe, dont le schématisme des compositions propres à nos groupes punk hexagonaux, ainsi que l'électroencéphalogramme uniforme des morceaux d'un bout à l'autre de l'album, démontre une fois de plus, s'il en était besoin, les limites habituelles en termes de composition de ce type de formation. Cependant, je m'abaisse à convenir que le niveau technique affiché laisse entendre qu'on est plutôt dans le haut du panier de ce qu'on est capable d'accomplir lorsqu'on a grandi dans nos contrées. Ainsi, autant dire, rien d'emballant, mais tout de même passable. D'ailleurs, quand le meilleur morceau de l'album se nomme toujours pareil, on ne peut être que d'accord.
Ouais, tout est dans le style, hein, moi je trouve, chez eux. Héloïse en a parlé, une espèce de cagoule en cuir fuchsia, avec une fermeture éclair sur la bouche, un truc vraiment très très sexe quand même. Mais du coup, on sait pas qui c'est, les gars, parce que tout le monde porte des cagoules. Alors tout de suite, je me suis dit, mais c'est la version synth-punk ou punk de Daft Punk, parce que Daft Punk c'est pas punk, mais eux ça sera la version punk de Daft Punk, quoi, parce que avec leur cagoule tout ça. Sur les réseaux sociaux, ils cultivent aussi une esthétique de la déglingue. Tu vois des photos d'eux, où t'as une espèce de collection de photos d'eux avec des canettes de bière toujours plus fortes, 8, 9, 10, 11 degrés. Tu vois, à chaque fois qu'ils trouvent un truc qui tabasse, qui va te donner une gueule de bois que même Cédric serait pas capable de supporter, ils prennent une photo d'eux avec la canette, quoi. Et donc, du coup, effectivement, moi, je trouve que ça joue beaucoup sur ce look à mi-chemin entre le braquage de banque et la soirée sadomaso. Bon, la musique, elle est arrosée de bière avec un gros son punk, des textes complètement nihilistes. Il y a une espèce d'entêtement à n'avoir jamais aucun sens du collectif, aucun message, juste des préoccupations nombrilistes de fêtards fouteurs de merde. D'ailleurs, c'est un des refrains qui revient dans une chanson, les nerfs à vif, je suis pas d'humeur à jouer collectif. Et ça semble être leur mantra. Bon, heureusement qu'ils créent cet univers de performance scénique pour transcender un peu le truc, parce que je suis d'accord avec toi, Guillaume, ça va pas décoiffer un punk. Ceci dit, c'est bien fait, c'est bourrin et efficace, mais je pense qu'il y a, enfin, je pense que c'est à voir sur scène, parce qu'on doit être à mi-chemin entre la performance et le concert. Mathieu.
Oui, ben en fait, Cuir, c'est un groupe, et effectivement avec des membres d'eux, qui fait que dès la première démo, on a un peu suivi l'affaire. Et moi, je trouve que le synth-punk, pour schématiser du groupe, il s'affirme enregistrement après enregistrement. Je trouve qu'il s'améliore, il devient de plus en plus efficace au fil du temps. Cet album, il est pour moi bien meilleur que l'album et que le EP qui était entre les deux. Alors bien sûr, les sonorités de synthé, elles sont pas vraiment ma tasse de thé, hein. Je vais pas changer ma casaque maintenant. Mais pour moi, ça reste très audible, simple, direct, je valide.
Eh bien, pour terminer sur Cuir, c'est Cédric qui va nous donner son avis.
Ouais, alors c'est pas un nom qui est facile à dire pour un Belge, en fait, hein, parce que vous autres peuple distingué, vous n'êtes pas cuir comme tout le monde, vous dites cuir avec vos petites bouches en cul de poule de peuple qui se pense supérieur. Donc cuir, donc. Quand j'avais vu passer les albums précédents, en fait, j'avais pas été très attiré. Le côté oeil virilisme me faisait un peu, bon voilà, un peu peur, quoi. Mais comme c'était au programme, donc j'ai pris le temps de m'y arrêter, j'ai vraiment apprécié, du coup. On voit bien le côté punk ouvrier de la scène de Lorient et de Brest, notamment à proximité avec Syndrome 80, qu'on avait déjà chroniqué ici, qui était très bon. Certes, c'est des histoires de mecs, hein, tout ça, mais c'est bien fait. Et ici, l'esthétique noire et rose, finalement, elle résume assez bien l'idée du groupe, quoi. Le noir du brut, du punk, du sauvage, de la bière à flot, la misère quotidienne, la rage, la pisse, etc. Hein, qu'on peut entendre sur des titres comme Un air de Mexico, hein, je cite, donc, rime de clodo, bière de poivreau, quand je les ingère, ça finit dans le caniveau. Et puis il y a le côté rose avec le synthé, les textes second degré, hein, comme la ville aux cinq ports, par exemple, breton tatoué, je paye ma tournée, j'assume le cliché. Une esthétique hyper contrôlée, l'esprit joyeux et des titres assez malins comme les nerfs à vif dont on a déjà parlé. Et tout ce qui, il y a un titre qui résume bien ces deux facettes, c'est je ne sais plus d'ailleurs le nom du titre, mais j'ai retenu les paroles. Parfois je rigole et j'en fais des tonnes, pourtant je suis bien sérieux car je viens pour changer la donne. Bon, pas sûr que ça change complètement la donne, mais voilà, le rose et le noir, moi ça me convient très bien, ça me convient mieux que Coupe-gorge par exemple, et ça met un peu de fleurs dans le virilisme, donc très bon album que je réécouterai volontiers, en tout cas.
Et ben, je vous propose d'écouter un deuxième et dernier extrait de Cuir avec justement les nerfs à vif. Les nerfs. Allez.
Je suis plus sûr à toi, ça fait qu'alors t'as aucun espoir, t'es aussi utile qu'un égo de club. crame, les nerfs à vif. Je suis pas dîneur à jouer collectif, les nerfs à vif. Si ça part en classe, ce sera explosif, les nerfs à vif. Je suis pas dîneur à jouer collectif, les nerfs à vif. Les nerfs à vif.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Et voilà, c'était Tatapoum, épisode 51. Ce soir, on retrouvait la fine fleur de la critique rock parisienne qui était, une fois encore, d'humeur à jouer collectif puisqu'il y avait Marion, Bibi, Arnaud, Cédric, Héloïse et Mathieu. Bon courage pour ce qui vous reste à subir de dimanche. On se retrouve la semaine prochaine sur la même antenne. Ciao.